Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle matinée à vous qui avez choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les comptes dans le rouge, le déficit public est plus important que prévu pour 2023, 5,5% du PIB. L'objectif n'est pas atteint, il faut en tirer les conséquences. Réagit ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La colère du maire d'Orléans. Avant les Jeux Olympiques, il dénonce les arrivées de migrants en catimini, dit-il, dans plusieurs villes en provenance de Paris. Et puis les Bleus du foot à Marseille en amical ce soir face au Chili pour se racheter après la défaite de samedi contre l'Allemagne.
Et puis, rendez-vous politique dans une demi-heure maintenant. Fabrice Leggeri, l'ancien patron de l'agence Frontex, désormais candidat du Rassemblement National aux Européennes, sera mon invité. Ce sera donc à 8h30. Confirmation ce matin, les comptes sont dans le rouge et encore plus que prévu.
Oui, le chiffre est tombé il y a moins d'une demi-heure. Le gouvernement avait prévu un déficit public à 4,9% du PIB pour 2023. Finalement, Victor Jeanin, c'est bien plus élevé, c'est 5,5%. Ça se creuse comme on le redoutait.
Oui, et ce dérapage est dû à 21 milliards d'euros de recettes fiscales qui ne sont pas rentrées dans les caisses de l'État, selon les explications de Bruno Le Maire ce matin. Dans le même temps, c'est logique, la dette se creuse plus que prévu et grimpe à 110,6% du PIB. La France fait des désormais partie des mauvais élèves de la zone euro en compagnie de la Grèce et de l'Italie. C'est pas brillant. L'objectif de déficit de 4,4% pour l'année 2024 ne sera donc manifestement pas tenu, puisqu'on part de trop loin, de quoi s'attirer les foudres des agences de notation.
Et objectif pas atteint, vient de réagir le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui répète pourtant son objectif de passer sous les 3% en 2027.
Oui, et après les 10 milliards d'euros de coupes déjà annoncées pour le budget d'État, le gouvernement commence déjà à réfléchir à des économies supplémentaires pour l'année prochaine. Dans son viseur, les collectivités territoriales et la protection sociale, c'est-à-dire l'assurance chômage, les dépenses de santé. Bruno Le Maire se déclare favorable à moduler les remboursements en fonction des revenus. En revanche, il rejette l'idée d'augmenter les impôts, une solution de facilité, selon les mots du ministre de l'économie.
Et c'est dans ce contexte économique que les retraités seront dans la rue aujourd'hui pour demander une revalorisation de leur pension face à l'inflation. Il n'y en a pas eu en début d'année. Des rassemblements sont prévus partout en France, comme à Toulouse, où Agnès et sa sœur vont manifester tout à l'heure à 10h.
Ma sœur, elle a 950 euros, elle a aucun bien, elle est seule, elle est retraitée, elle a donc un loyer à payer, 470 euros de loyer, comment on fait après pour vivre? Elle mange de la polenta, du riz, des pâtes, parce qu'il n'y a plus que ça. Elle encore, ça va, elle a une mutuelle, mais combien n'ont plus de mutuelle, ont laissé la mutuelle parce qu'ils ne peuvent pas payer la mutuelle avec le peu de pension qu'ils ont? On voit des gens qui ont de plus en plus de problèmes dentaires et ils ne peuvent pas le payer parce que c'est trop cher.
Il est 8h03 sur RMC. 15 000 policiers, gendarmes et douaniers sont mobilisés cette semaine pour les quatre nouvelles opérations Place Nette contre les trafiquants de drogue lancées hier à Lille, Lyon, Dijon et au nord de Paris, pour un bilan de quasiment 500 interpellations en une semaine en comptant celle de Marseille la semaine dernière. Il y a désormais 4 000 militaires supplémentaires déployés sur le terrain dans le cadre de l'opération Sentinelle après l'attentat de Moscou, après le relèvement en France du plan Vigipirate qui est au niveau maximum maintenant. Il n'y a jamais eu autant d'attentats déjoués. Voilà ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au moment où la France, vous le savez, s'apprête à organiser le plus grand événement de la planète, les Jeux Olympiques, dans 3 mois, et même avant avec le parcours de la flamme olympique, Nicolas Pelletier.
Et depuis le début, les services de l'État travaillent sur le pire scénario possible autour de ces JO. La menace terroriste n'a jamais faibli, il faut le garder en tête, commente un proche de l'organisation. Depuis plusieurs semaines, ce sont surtout les alertes cyber et les tentatives de désinformation autour de ces Jeux qui rythment les remontées du terrain. Et dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme à Marseille, la pression va augmenter d'un cran, car tout le monde connaît le chemin avec précision et des horaires définis. Le pire scénario, explique ce responsable policier. Le centre de renseignement olympique tourne à plein régime, les criblages des accrédités s'enchaînent. 10 fichiers S ont par exemple été écartés de l'organisation. Et si la menace est forte à l'approche de l'événement, la jauge de la cérémonie d'ouverture pourrait une nouvelle fois baisser. Il suffit pour les services de l'État de désactiver le QR code de certains invités.
Et en attendant les Jeux Olympiques, le maire d'Orléans se met en colère, je vous le disais, face aux arrivées de migrants dans sa ville en provenance de Paris. En fait, Romain Hougue, Il explique que des migrants sont déplacés en catimini de Paris vers des villes un peu plus éloignées comme la sienne avant les Jeux.
Oui, selon lui, depuis mai dernier, toutes les trois semaines, c'est un car affrété par l'État avec à son bord 35 à 50 exilés sans domicile fixe qui arrivent à Orléans depuis Paris. Au total, 500 migrants auraient été transférés dans sa ville en un an sans qu'ils n'aient jamais été informés par les services de l'État, affirme-t-il. Depuis un an, le gouvernement a demandé au préfet de désengorger les hébergements d'urgence d'Île-de-France qui sont saturés en transférant les migrants vers des centres d'accueil régionaux, le temps d'examiner leur situation. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack de Paris, dit le maire Serge Grouard, qui n'est pas le seul à pointer le manque de concertation avec les services de l'État. Une élue de la ville de Strasbourg déplore également une certaine opacité.
Et je reviendrai sur cette question aussi de transfert des migrants avec mon invité à 8h30, c'est l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, désormais candidat RN aux européennes.
La colère ce matin aussi des viticulteurs dans le Bordelais, dans le contexte de la crise agricole. Ils sont furieux car ils se sont aperçus que des bouteilles de Bordeaux étaient vendues 1,66€. 1,66€ seulement chez Carrefour en ce moment dans le cadre de sa foire au vin. C'est moins cher que de la sangria, voilà ce qu'il dénonce et ça surprend même les clients. Écoutez avec Martin Bourdin.
Ses courses à peine terminées, Pierre-Eugène découvre cette offre sur son téléphone et il est à deux doigts de retourner dans le magasin vérifier s'il trouve l'une de ses bouteilles de vin à 1,66€.
Si je tombe dessus, je pourrais l'acheter. Et au pire, vous l'utilisez pour faire à manger et puis voilà. Hein.
C'est vrai que quand on regarde le visuel de cette bouteille de Bordeaux, on a vite fait de se laisser séduire, sourit Julia.
On dirait que c'est un vin d'un domaine, d'un château ou autre, donc on pourrait penser que. Mais 1,66€, une bouteille de vin, c'est même en dessous des premières bouteilles de vin quand on était ado, quoi. Donc non, j'aurais pas trop tendance à acheter ce vin-là.
Des vins de l'appellation Bordeaux et Wen-le-Moigne aussi en vend dans sa cave.
Oh, on le vend 10 fois ça, ouais.
Et à 1,66€ la bouteille, d'après lui, impossible pour les vignerons de s'y retrouver.
Pour moi, c'est le prix de la matière sèche. Sur la place de Bordeaux, les négociants négocient au plus bas à 66 centimes du litre. Il faut qu'il paye sa bouteille, son bouchon, son étiquette, le carton, ses ouvriers, sa mise en bouteille. Vendre des vins à ces prix-là, c'est qu'il y a un problème.
Ce qui inquiète aussi les vignerons bordelais, c'est que ces prix dévalorisent la marque.
Parce qu'elles sont pas chères, alors je me dis que c'est pas très bon.
Carrefour, de son côté, défend une opération commerciale financée entièrement par sa maison de négoce et qui n'affecte pas la rémunération des viticulteurs.
Est-ce que vous l'avez goûté ? Est-ce que vous l'avez goûté ce vin ? Cette bouteille à 1,66€, cette bouteille de Bordeaux chez Carrefour, bah vous
moins
nous appelez.
Cher que sans plomb.
Ouais, moins cher que sans plomb. Vous nous appelez au 3216. Nous dire.
À 8h07, ces images impressionnantes et inquiétantes aussi qui nous parviennent des États-Unis à Baltimore. C'est dans le nord-est américain où un pont s'est effondré cette nuit. Image impressionnante. C'est un porte-conteneur qui a heurté un des pylônes de ce pont, donc qui s'effondre dans l'eau. Les images semblent montrer que les voitures étaient en circulation au moment de l'effondrement du pont. On y reviendra évidemment un peu plus tard dans la matinée. Cette question ce matin en football, les Bleus vont-ils se racheter ? On les a quittés samedi sur une défaite contre l'Allemagne. On les reverra ce soir contre le Chili en amical à Marseille où le public marseillais a prévu d'acclamer l'ancien Chilien de l'OM, Alexis Sanchez, hein, Florent Germain.
Oui, c'est un peu le monde à l'envers. Pendant que l'attaquant français Kylian Mbappé s'attend à être sifflé par le Vélodrome, son adversaire chilien Alexis Sanchez sera comme à la maison ce soir à Marseille. Il n'a laissé que de bons souvenirs aux supporters marseillais, comme Mathieu.
Sa grinta, ses buts, sa classe technique, il y a tout. C'est un grand regret. Qu'il soit parti, c'est vraiment un grand regret.
Le cas Alexis Sanchez a animé le mercato marseillais de l'été dernier. Pour une histoire de salaire ou de style de jeu, Alexis est finalement parti et Tony, supporter de l'OM, n'a pas compris.
Moi vraiment je trouvais que c'était un joueur complet comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu à l'OM. Et moi quand j'ai vu la différence en plus de salaire entre Sanchez et Aubameyang, j'ai pas compris ce transfert.
Les Marseillais qui seront au Vélodrome ce soir pour France-Chili ne vont donc pas hésiter à applaudir Alexis Sanchez.
Moi je pense qu'il y a une ovation quand même parce qu'il nous a quand même fait une sacrée saison.
Il mérite des applaudissements sans trop en faire. Même si pour moi il aurait dû rester, il aurait peut-être pu lui aussi vouloir rester. C'est pour ça qu'il faut pas en faire trop non plus.
Je pense un super accueil. Hein. S'il veut revenir, on le reprend. Hein.
Et que l'on rassure Didier Deschamps, cela n'empêchera pas le Vélodrome de supporter à fond les Bleus ce soir.
Et 9 changements sont attendus ce soir pour ce match amical contre le Chili avec le retour du gardien Mike Maignan et également le défenseur marseillais, tiens, Jonathan Clauss, qui sera normalement aligné par Didier Deschamps.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Pour décrocher un job, il ne faut plus dire d'où on vient, il faut cacher sa religion, son origine, changer son nom et son adresse. Voilà ce que pense la majorité des jeunes sondés pour une étude qu'on vous dévoile en exclusivité sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va aller faire un tour sur l'appli RMC sur Direct Studio. Regardez vos messages, vos réactions autour de cette menace d'attentat au plus haut. Cette question, faut-il maintenir les grands événements, en particulier la cérémonie d'ouverture des JO? Ça fait réagir Michel qui nous écrit: pour moi, c'est une folie de s'obstiner, de maintenir cette immense cérémonie sur la scène. Ça met tout le monde sous tension, ça fait monter l'inquiétude, ça fatigue nos policiers. Tout ça pour faire une belle image, alors que la cérémonie serait tout aussi belle dans un stade ou même dans plusieurs stades en simultané. Pourquoi pas? On sait faire, on sait sécuriser les stades, nous écrit Michel. Alors il faut miser sur ce qu'on sait faire plutôt que se lancer dans l'inconnu au moment où le risque est maximal. Voilà pour le plaidoyer de Michel. À l'inverse, j'ai Julien qui nous dit: le risque terroriste a toujours été là, mais la peur ne doit pas nous faire renoncer à ce qui fait nos valeurs, la démocratie, la liberté. Certains voudraient qu'on annule tout, qu'on annule les JO, mais si on faisait ça, on donnerait raison aux terroristes. Soyons vigilants, mais surtout, ne laissons pas ceux qui veulent qu'on n'organise plus rien en France prendre la parole et dénigrer un événement mondial comme les JO. Oui à la prudence, non à la peur, écrit Julien. Vous aussi, vous prenez la parole au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe. Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Bonjour Saïd Amouche, vous êtes le fondateur d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH et vous accompagnez dans le recrutement les grandes entreprises françaises. Vous dévoilez ce matin en exclusivité sur RMC une étude sur les jeunes et la recherche d'emploi, et il y a un résultat qui est particulièrement frappant puisque 80% des sondés pensent que l'appartenance réelle ou supposée à une ethnie peut influer la décision de recrutement. Ça veut dire qu'ils intègrent ça sur le CV et que parfois ils s'auto-censurent. Concrètement, ça donne quoi ?
Concrètement, ça donne des candidats en fait qui ne postulent plus du tout et donc qui s'auto-excluent en fait du marché de l'emploi. En fait, c'est tellement cultivé, tellement intériorisé qu'il y a à un moment donné une marginalisation sur le marché économique et ça crée en fait des inégalités et on sait qu'il faut travailler là-dessus pour pouvoir redonner de l'espoir, redonner de la puissance parce qu'ils ont les compétences, parce qu'ils sont aujourd'hui en capacité de prendre des postes à responsabilité dans les entreprises et donc il faut travailler là-dessus et c'est ce qu'on a fait en créant une fondation, la fondation Mosaïque, qui va œuvrer justement à déconstruire ces stéréotypes, accompagner ces entreprises et faire en sorte de maximiser les mises en relation.
Accompagner les entreprises d'un côté et accompagner les postulants de l'autre.
Absolument.
Pour ne pas qu'ils se découragent. Ils vont jusqu'à parfois renoncer à postuler pour des jobs ou changer le CV.
Alors parfois, effectivement, vous avez raison, on va transformer finalement presque son identité, on va pas mettre sa photo, on va transformer son adresse, on va occulter son adresse, on va mettre une belle adresse parisienne parce qu'on a trouvé le bon fillon, le bon contact qui va pouvoir justement donner cette adresse pour pouvoir camoufler ces plaies en fait qui constituent le processus de discrimination parce que ce sont des stéréotypes qui se consolident d'une manière forte.
En gros, ce que vous me dites, c'est que si j'ai 18-20 ans, que j'envoie un CV sur lequel la photo montre que je suis blanc, que je m'appelle Arthur, que je viens du centre-ville de Poitiers, j'ai plus de chances que si je m'appelle Karim et que je suis issu de l'immigration et que j'habite à Échirolles. Non seulement c'est le cas, mais c'est même intériorisé par les jeunes.
C'est intériorisé par les jeunes, mais il faut aussi expliquer en fait que ce phénomène, il n'est pas lié uniquement à la question ethnique, il est aussi lié à la notion en fait sociale, c'est-à-dire qu'en fonction de sa catégorie sociale, en fonction de sa zone géographique, eh bien on va avoir moins de chances que les autres, on va avoir forcément un écosystème autour de nous qui va être moins favorisé, et donc il faut mettre en place en fait des dispositifs d'égalité des chances, d'équité, qui vont permettre en fait de rattraper en fait l'écart entre ces populations qui souhaitent s'inscrire dans des parcours d'intégration par le travail. C'est ce qu'on appelle nous l'inclusion économique, parce que clairement une entreprise aujourd'hui qui ne recrute pas, c'est la société qui est en pâtit.
Ça veut dire que non seulement l'ascenseur reste en bas, mais que les entreprises elles-mêmes ne font pas forcément en sorte que l'ascenseur monte.
Alors justement, aujourd'hui, c'est ça qui change. Aujourd'hui, il faut affirmer et redire à cette jeunesse qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui s'engagent. Cette étude, par exemple, on l'a mis en place avec Sanofi, avec lesquels on travaille depuis 4-5 ans. Sanofi, aujourd'hui, c'est un vrai éclairage, parce que cette étude, elle vient nous apprendre, 3 ans après, parce que c'est la deuxième édition de cette étude, que justement, en faisant ce travail de proximité avec ces populations, eh bien, on les tire vers le haut et on a un effet d'autocensure qui se réduit et qui crée des dynamiques de recrutement positives.
Ce que vous nous dites, Saïd Amouche, c'est qu'au fond, les entreprises finalement quand même évoluent, que cette discrimination, elle diminue, mais que dans l'esprit des jeunes, bah, ils restent bloqués.
Alors,
quoi.
C'est le combat, en fait. Il faut le faire savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus de 1600 postes aujourd'hui qui sont disponibles
ils
en alternance.
Ils ne sont plus assignés à résidence, comme l'expression du gouvernement, en quelque sorte.
Alors, ils le sont de facto si on ne fait rien. En revanche, aujourd'hui, il existe des solutions efficaces qui permettent, en fait, à la fois d'accompagner ces entreprises. Ce que je disais tout à l'heure, c'est 1600 postes aujourd'hui qui sont ouverts chez Sanofi en alternance. Et on organise avec eux un Tour de France où on se fixe un objectif de 10% de population issue des territoires les moins favorisés en France. Donc, ils vont pouvoir postuler, on va pouvoir les accompagner et on va pouvoir faire en sorte que ça se transforme en signature concrète.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être patrons d'un côté, ou alors qui sont justement ces jeunes qui n'osent pas au patron d'abord, qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, on leur dit qu'aujourd'hui, les solutions existent. Ils ont la possibilité de publier leurs offres s'ils souhaitent aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 candidats qui sont qualifiés dans une base de données téléchargeable gratuitement sur la plateforme mosaïquetalent.com. Donc, il suffit simplement de publier son offre d'emploi ou son offre en alternance et on a un algorithme de matching qui va proposer des candidatures
motivés,
à proximité.
Que vous
exactement.
Pouvez,
Donc, les jeunes sont disponibles, ils ont envie de s'intégrer par le travail, il y a des dynamiques de réussite. Maintenant, en fait, il faut accompagner ce mouvement, faire en sorte d'embarquer davantage d'entreprises pour pouvoir susciter davantage d'engouement de la part des jeunes. C'est très simple, mais il faut le mettre en place aujourd'hui.
Et qu'est-ce
aujourd'hui.
Que vous dites aux jeunes qui nous écoutent ? Il y a eu cet échange la semaine dernière à Marseille entre Emmanuel Macron et un jeune qui lui disait « Oui, mais moi, je peux rien faire. » Il lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Bah, moi, je sais pas. » Et Emmanuel Macron lui disait « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Il disait « Non, mais moi, de toute façon, j'ai aucune chance. » Est-ce que, à ce jeune-là, vous lui dites « Bah si, en fait, il y a des choses qui peuvent se passer pour toi. »
Absolument. C'est plus de 10 000 postes qui sont ouverts aujourd'hui, qui sont à disposition avec des grands groupes du CAC 40, avec des start-up, avec des entreprises qui sont en transition écologique et qui ont besoin à un moment donné aussi de compétences. Donc il existe en France des opportunités, il faut accompagner ce mouvement, il faut donner plus de puissance à notre fondation, il faut travailler à l'échelle d'un écosystème. Je pense que les entreprises, elles doivent à un moment donné s'engager davantage, certains le font, on connaît Deloitte, on connaît BNP Paribas, on connaît Sanofi sur
comme
ces sujets-là, on connaît Sodexo qui est très engagé aussi sur ces questions-là, mais il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, c'est pas avec une quinzaine d'entreprises engagées qu'on changera le système.
Merci Saïd Amouche d'être venu lancer cet appel en quelque sorte aussi sur RMC et nous révéler bien sûr les résultats de cette étude que vous pouvez retrouver en exclusivité et en intégralité sur le site rmc.fr. Je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet de recrutement et fondation donc Mosaïque RH.
Et on vous invite à Aubervilliers au premier rendez-vous de recrutement avec Sanofi.
Ce sera quand ?
C'est dans les prochains jours.
On retrouvera ça sur RMC, promis, on le mettra sur le site internet. Merci à vous d'être venu. Il est 8h19.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud. Et bonjour.
Arnaud de Manche.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, vous m'excuserez, c'est une matinée évidemment un peu compliquée pour moi. En tant qu'humoriste, on se demande toujours si on peut rire quand un nouveau conflit éclate dans le monde, puisqu'après Russie-Ukraine, Israël-Hamas, c'est désormais la guerre Inès Reg, Natacha Saint-Pierre à Danse avec les Stars qui fait le plus parler. Tout le monde en parle dans les couloirs depuis ce matin.
Depuis ce matin, de Marseille.
Du maquillage jusqu'à la régie, tout le monde.
Surtout Manu, qui est
très quick step. C'est une guerre qu'on n'avait pas vu venir, celle-là. Alors, Natacha Saint-Pierre, Natacha Saint-Pierre accuse Inès Reg de menaces. Inès Reg l'accuse d'insultes dans une vidéo d'environ 8h15 sur Instagram.
Natacha, 12h.
Ouais, Natacha a répondu dans une vidéo de 4h30. Un plan unique sur deux meufs en larmes qui monologuent. On dirait les films ouzbeks sur les bergères séropositives à qui il manque un bras là, et qui ont perdu leur troupeau dans une tempête et qui gagnent le festival de Cannes. C'est la première fois qu'on assiste à autant de violence dans l'émission. Première fois depuis que Vincent Moscato a tenté un quick step en 2019. Allez, 1, 2, 3, 4. Et qu'il a marché sur les pieds de sa danseuse Candice Pascal. Puis pas qu'un peu, hein. Maintenant, la pauvre, elle a plus des pieds, elle a des palmes. Elle va tenter de remporter une médaille d'or aux Jeux Paralympiques. La malheureuse. Donc, on comprend rien à ce conflit. Apolline, il va falloir réinviter Dominique Deville.
Bien sûr.
Faut qu'il nous explique. Madame,
de Malherbe. Aujourd'hui, le monde de Danse avec les Stars est coupé entre plusieurs factions. D'un côté, les partisans québéco-natachistes, soutenus par les francophones de Montréal à Accent Rigolo et à Tabernacle de Calice, et de l'autre, les inétiens du reggae, qui soutiennent leur leader, parfois sincèrement, mais parfois par calcul. Or, là, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Car la communauté française n'arrive plus à se positionner sur le conflit qui embarrasse aussi les TFistes qui ont mandaté un expert pour chercher les origines du conflit. Mon expérience me dit qu'il trouvera des blessures et des faiblesses. Celles qu'on avoue qu'à demi-mot, des faux pas, des maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. TF1 qui propose aussi par ailleurs d'envoyer une dizaine d'avions de chasse, les danseuses. Charles Magnien ne démentira pas cette analyse militaro-géopolitique. Et là, Seules des élections libres pourront désamorcer l'escalade de ce conflit. Alors, pour voter Inès, tapez 1. Pour voter Natacha, tapez 2. Au moins, on comprend mieux.
Ça y est, tout est clair. Arnaud, le Conseil de sécurité de l'ONU, on reste dans le Dominique de Villepin, vient d'adopter sa première résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Encore la guerre. Donc, l'ONU... C'est karaoké ce matin. L'ONU demande un cessez-le-feu, que Gaza cesse d'être bombardé. Bon, après, même si Israël accepte de cesser les bombardements, il n'y a plus grand-chose à bombarder sur place. Il ne doit pas rester beaucoup de bâtiments debout. Et les États-Unis se sont abstenus de cette résolution, ce qui n'empêche pas Joe Biden de mettre de plus en plus en garde Israël au sujet d'une perte de soutien de l'opinion publique. Ça fait quelques semaines qu'il est sur ce registre. Là, Joe Biden a tapé du poing sur la table. Ça a fait...
Oh, les phalanges.
Et puis il a dit « Listen to me, Monsieur Ben Gurion. Il faut que vous rediscutiez avec Yasser Arafat de l'avenir de la Judée. Sinon, moi et le Premier ministre britannique Winston Churchill, nous voterons la résolution du Société des Nations. J'en ai parlé au roi des Juifs, Jésus, quand je l'ai vu la semaine dernière. » Ça va pas rigoler, hein.
Arnaud, l'armée française s'inquiète de la problématique de l'obésité. 43% des militaires seraient en surpoids.
Voilà. Les meilleures armes lourdes dont on dispose, a priori, c'est nos militaires eux-mêmes. Après, ça peut être utile, hein. Je veux dire, un parachutiste de 120 kilos qui tombe sur un ennemi, il peut le paralyser, ou même, c'est létal. Vous imaginez, en cas de conflit avec l'Allemagne ?
Ah, écoute, monsieur Taborg, hein ?
Je suis pas gros !
Bien, good !
Voilà, à quoi ça va ressembler, c'est n'importe quoi. Après, la Ligue 1 McDonald's, il faut que l'armée française aussi ait des sponsors. Oui. C'est pas moi, l'infanterie Burger King, pour les amateurs de bidoche saignante. La Légion étrangère Five Guys, avec juste 5 monégasques, les sous-marins Subway. On devrait faire à nos militaires l'émission Relooking Extrême spéciale obésité. Vous connaissez ce truc-là ? C'est une émission où ils prennent des gens obèses et ils les font maigrir, et il y a une voix off horrible qui raconte des trucs affreux. Après une terrible dépression, Sandy a pris 140 kilos en 2 ans. Sandy s'est réfugié dans la nourriture. Ou plutôt, c'est la nourriture qui s'est réfugiée dans Sandy. Sandy pleure. Son mari, Donovan, récupère ses larmes pour faire cuire des frites. Heureusement, notre coach propose à Sandy un entraînement draconien qui pourra l'aider. Sandy, j'ai pu t'obtenir un programme d'entraînement dans l'armée française. Voici le lieutenant Robert. Ouais, Sandy, bonjour. Alors, demain, on va commencer l'entraînement et le petit déjeuner. Il y aura des saucisses au lard pour les protéines. Après, on fait la marche jusqu'au bistrot et on attaque le cassoulet. Après 1 an de ce programme, Sandy a divisé par 3 ses ambitions et a multiplié son poids par 2. Alors, heureusement qu'on va pas sur le terrain ukrainien tout de suite. Hein. Faut qu'il bosse un tout petit peu. À demain. Et en podcast.
Détendez-vous sur RMC avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com.
Et dans un instant, la politique. Mon invité, c'est Fabrice Leggeri. C'est l'ancien président de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures. Et il est désormais candidat, 3e sur la liste du Rassemblement national aux européennes. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabrice Leggeri.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes un nouveau venu en politique, candidat désormais en troisième position sur la liste du Rassemblement National aux Européennes. Et vous êtes l'ancien directeur de l'agence Frontex, l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières. Vous l'avez dirigée de novembre 2014 à avril 2022. Vous aviez d'ailleurs été nommé par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. On va parler de la menace terroriste, de la question de l'immigration et puis plus globalement des positions aujourd'hui de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets. Mais d'abord la menace terroriste. Emmanuel Macron hier a dit que le risque zéro n'existe pas. Est-ce que le risque zéro existe, demande le président. En vrai, jamais dans la vie. Ce qui est difficile parfois, c'est d'ailleurs qu'il y a toujours une part de risque, mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le prévenir. Est-ce qu'il a raison ?
Ben, nous savons que le risque zéro n'existe évidemment pas en matière de sécurité comme dans d'autres domaines de la vie. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment espérer que le travail de renseignement est fait suffisamment en amont sur le territoire national français, mais aussi en coopération avec d'autres services de renseignement, d'autres pays alliés. Moi, je voudrais avoir une pensée évidemment pour les victimes de cet attentat qui a eu lieu
à Moscou,
à côté de Moscou la semaine dernière. Rappeler aussi que notre pays a payé un lourd tribut au terrorisme islamiste, 270 victimes décédées depuis 2012. Et puis d'autres pays en Europe, aussi en Israël, ont été frappés dans les dernières années cruellement par le terrorisme islamiste, qui est la menace principale aujourd'hui par rapport à ces menaces de sécurité intérieure ou aux frontières.
Une menace prise très au sérieux, puisque le niveau urgence attentat, qui est le niveau le plus élevé de vigilance face au risque des attentats, a donc été enclenché. Est-ce qu'il faut aller plus loin, aller jusqu'à remettre en cause l'organisation de l'ouverture des Jeux Olympiques ? Est-ce que vous vous dites, attention, il faut peut-être prendre des décisions sur ce plan, ou est-ce qu'au contraire, vous dites justement, vis-à-vis de cette menace, il faut montrer qu'on ne cède pas ?
Je crois que les Jeux Olympiques doivent être et rester la grande fête mondiale du sport. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, une fête populaire en France, mais pas seulement. Et je pense qu'il faut saluer ici le travail très professionnel de l'ensemble des services de police, de gendarmerie nationale, des militaires supplémentaires qui sont déployés dans le cadre de Vigipirate. Et puis naturellement, comme je l'ai évoqué déjà, souligner l'importance et le professionnalisme des services de renseignement intérieur ou de renseignement, je dirais, d'appréciation du risque terroriste en lien avec nos partenaires internationaux.
Donc là, vous parlez aussi du risque extérieur, d'une menace qui viendrait de l'extérieur. Vous avez d'ailleurs souvent fait ce lien, alors même que vous étiez à la tête de l'agence Frontex. Vous aviez dit le risque terroriste existe toujours quand on a affaire à des personnes qui viennent de théâtres de conflits. C'est le cadre européen qui nous permet d'avoir une gestion optimale de notre frontière extérieure. Vous estimez donc, un, qu'il y a un lien entre immigration et terrorisme, mais deux, que la réponse est l'Europe.
Alors la réponse, c'est la double frontière. Donc il y a la frontière extérieure de l'Union européenne, donc la frontière extérieure de l'espace Schengen. Dans mes fonctions précédentes de directeur de Frontex, ma compétence portait sur cette frontière extérieure. Mais naturellement, les autorités nationales ont aussi le devoir de veiller à qui entre sur le territoire national. Donc c'est la raison pour laquelle, si j'ai bien compris d'ailleurs, les contrôles ont été rétablis au moment du terrorisme.
Vous saluez le fait que les contrôles soient rétablis. Je suis quand même frappée de voir qu'à l'époque, en tout cas, vous disiez c'est le cadre européen qui nous permet d'avoir cette gestion optimale. Est-ce que vous le pensez toujours ?
Alors moi, ce que j'ai fait comme directeur de Frontex à l'époque, c'est développer l'agence conformément à ce que j'estime être le mandat normal de l'agence, c'est-à-dire une agence de sécurité des frontières contre l'immigration illégale, c'est-à-dire contre les franchissements illégaux de nos frontières extérieures, mais aussi pour aider les États qui gardent la souveraineté nationale et qui conservent la la primauté des pouvoirs en matière de contrôle des frontières, mais néanmoins, l'agence européenne Frontex, que j'ai dirigée, devait soutenir les États dans les actions également de prévention de la criminalité aux frontières. Et il y avait dans le mandat de l'agence également des éléments de contribution à la détection de potentielles menaces terroristes. Mais là, il faut être très modeste, parce que c'est quand même l'affaire des services de renseignement.
On va revenir sur ce que vous avez fait lorsque vous étiez à la tête de Frontex, mais sur cette question de la gestion aussi des flux migratoires, y compris à l'intérieur même de l'Europe ou à son entrée ou à ses portes. Deux questions d'actualité. D'abord sur l'alerte du maire d'Orléans qui dit avoir reçu un certain nombre de migrants en catimini, c'est son mot. Le maire d'Orléans affirme depuis hier que toutes les semaines, 30 à 50 migrants sont amenés en car en catimini de Paris vers sa ville pour diminuer le nombre de migrants de la capitale avant les JO. Je le cite, ils sont installés pendant environ 3 semaines dans des hôtels. Il est ensuite difficile de savoir ce qu'ils deviennent. Serge Rouard qui dit qu'il n'a même pas été informé par les services de l'État de l'arrivée régulière depuis plusieurs semaines de ces migrants. Que faut-il faire ? Quelles sont les solutions ?
Eh bien, il ne faut pas accepter le pacte migratoire asile-migration de l'Union européenne, parce que ça, ce n'est que le début. L'arrivée de migrants en catimini,
enfin là,
nous dit le maire.
C'est des migrants qui étaient déjà à Paris. Hein.
Ils étaient déjà à Paris, mais ils étaient déjà en situation illégale à Paris. Donc, en réalité, ce qu'il faut, c'est bien comprendre que tous ces migrants qui sont sur notre territoire en France ou qui sont dans d'autres pays européens sont arrivés illégalement. Ils ont franchi pour la majorité d'entre eux illégalement les frontières extérieures, c'est-à-dire qu'ils ne remplissent pas les conditions légales pour entrer. Donc ils vivent dans une vie sans papier. Donc ils n'ont aucune existence légale, donc ils sont extrêmement vulnérables. Et donc la vraie manière humaine de traiter cette problématique, c'est en amont, et c'est la raison pour laquelle le Rassemblement National est opposé au pacte asile-migration. Et je précise que comme directeur de l'agence Frontex, j'étais arrivé par mon propre raisonnement, je dirais, d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue européen, je parvenais à la même conclusion, c'est-à-dire que les personnes qui sont vraiment en besoin de protection internationale, pour faire simple, pour les personnes qui nous écoutent, on va dire des réfugiés qui sont persécutés, comme dit la Constitution française, en raison de leur action pour la liberté. Bon, voilà une définition politique de ce qu'est un réfugié. Ces personnes qui sont vraiment persécutées dans leur pays d'origine et qui ont besoin de protection internationale, il faudrait qu'elles puissent faire une demande d'asile dans un consulat de pays européen
avant de pénétrer sur le sol européen.
Bien entendu, en amont, ça éviterait que ces personnes ne tombent entre les mains des criminels, des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Ça éviterait que ces personnes se retrouvent sur des bateaux en Méditerranée dans des conditions extrêmement périlleuses. Il y en a d'autres qui traversent le Sahara dans des conditions extrêmement périlleuses. Donc vous voyez que ce serait quelque chose, je dirais, d'humain par rapport personnes migrantes dont nous parlons, et ce serait quelque chose également de gagnant et bénéfique pour les États européens et la France, puisque ça permettrait de protéger en amont nos frontières extérieures.
Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à externaliser ceux qui seraient déjà sur le sol français, comme le fait la Grande-Bretagne ? La Grande-Bretagne, je le rappelle, a signé un accord pour externaliser ses demandeurs d'asile. Le temps d'examiner leur dossier, ils devraient être envoyés, là tous les recours ont été atteints, et il semble qu'en effet, la décision du Premier ministre britannique Rishi Sunak va en effet s'appliquer, c'est-à-dire donc ceux qui demandent l'asile et qui sont déjà entrés illégalement sur le sol britannique vont être envoyés au Rwanda. C'est là-bas qu'ils attendront le résultat de leur demande d'asile. Et si la demande d'asile n'est pas obtenue, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils resteront au Rwanda et ils ne rentreront pas en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Est-ce que c'est des solutions que vous envisageriez ?
C'est en tout cas, à ce stade, c'est d'abord de remettre au niveau européen et au niveau français la volonté politique d'appliquer le droit qui est normalement prévu pour contrôler les frontières. Je rappellerai quand même que on essaie de nous faire croire une fable, et c'est ce que j'ai vécu aussi de l'intérieur, parce que finalement je suis l'un des rares Français à avoir dirigé une agence de cette importance et avoir vécu de l'intérieur du système de l'Union européenne.
Rappelle, hein, Fabrice Leggeri, pour ceux qui nous rejoindraient, que effectivement désormais vous êtes numéro 3 sur la liste RN aux européennes et que vous avez dirigé Frontex donc de 2014 à 2022.
Donc en réalité, moi ce qui m'a frappé, fait. Et c'est l'une des leçons que j'ai tirées. Et c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite aujourd'hui entrer en politique, parce que je pense que comme fonctionnaire, on a nécessairement des pouvoirs limités, mais c'est le politique qui peut agir et peser sur le destin de nos pays, le destin de la France. C'est qu'on essaie de nous faire croire, la Commission européenne, des ONG immigrationnistes, qui essaient de nous faire croire qu'il est interdit d'interdire les franchissements illégaux des frontières. Et donc, il faut renverser ce raisonnement en disant les règlements européens qui ont constitué l'espace Schengen disent que les États de l'espace Schengen ont l'obligation d'empêcher les franchissements illégaux sur la petite portion de frontière qui est sous leur responsabilité. Donc concrètement, pour la France, ça veut dire à Roissy, à l'aéroport de Roissy, la France doit empêcher les entrées illégales. En Grèce, la Grèce doit empêcher les entrées illégales qui viennent, par exemple, de la Turquie. Bon. Mais nous avons, nous le voyons, moi je l'ai vu, une interprétation du droit de manière assez sournoise qui nous fait croire, qui répand l'idée qu'il n'est pas possible juridiquement de contrôler les frontières extérieures. Et donc finalement, on se retrouve avec des masses, par exemple l'année dernière en 2023 au niveau européen, il y avait 380 000 entrées illégales, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé par l'agence Frontex, au niveau de toute l'Union européenne.
Mais j'ai pas compris Fabrice Leggeri sur le Rwanda. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous estimez que la décision anglaise d'externaliser, d'envoyer carrément au Rwanda les demandeurs d'asile qui seraient rentrés illégalement sur le sol britannique, vous trouvez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ?
Nous proposons quelque chose de différent, qui n'est pas de choisir un pays, je dirais un peu au hasard, des négociations politiques possibles. Bon, pourquoi le Rwanda ? Bon, j'imagine que le Royaume-Uni a des relations diplomatiques qui ont fait que ça a pu se conclure. Mais ce que nous proposons, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de chaque personne en demande
de protection. Donc c'est dans les consulats des différents pays à l'extérieur donc de l'Union européenne. Vous parliez à l'instant de Frontex et de la question de la lecture qui est faite ou non des missions de Frontex. C'est là-dessus que, visiblement, à la fin de votre mandat, vous étiez en désaccord avec ce que l'on vous donnait ou ce qu'on vous autorisait à faire. Avec cette question fondamentale qui est de savoir si oui ou non, en tant que président de Frontex, vous avez tacitement accepté l'idée que des gardes-frontières grecs avaient repoussé les bateaux des migrants au risque parfois de les voir chavirer. L'avez-vous fait ?
Non, il n'y a jamais eu de mise en danger de qui que ce soit en mer Égée. Et la priorité a toujours été le sauvetage des embarcations lorsque des embarcations sont en détresse maritime.
Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que vous trouvez qu'il aurait fallu repousser ces bateaux comme l'ont, semble-t-il, fait les gardes-côtes grecs?
Le droit applicable dit qu'on peut faire des interceptions maritimes. Et une interception maritime, justement, là, j'explique qu'on nous raconte une fable en disant qu'on ne peut pas contrôler les frontières. Mais lorsqu'un bateau n'est pas en situation de danger, c'est-à-dire une embarcation est suffisamment manœuvrante pour pouvoir essayer d'échapper aux gardes-côtes, à ce moment-là, elle est donc en bon état de navigation, donc on n'est pas dans un cas de figure qui serait la détresse, et donc on n'est pas dans le cadre juridique et opérationnel du sauvetage.
Il y a la question du sauvetage, mais il y a aussi la question de repousser, c'est ce qu'on appelle les pushbacks. Que les gens comprennent. Il y a trois bateaux, on va imaginer, il y a trois bateaux sur l'eau et vous allez m'expliquer ce qu'on fait. Il y a une embarcation avec des migrants, il y a un bateau des gardes-côtes grecs et il y a un bateau de Frontex, l'agence que vous dirigiez. Si cette embarcation des migrants s'approche des eaux grecques, c'est-à-dire des eaux européennes. Il semble que certains bateaux de garde-côte grecs aient volontairement navigué trop proche de ce bateau pour, créant des mouvements de vagues, repousser l'embarcation vers les eaux turques et que les bateaux de Frontex qui étaient là n'auraient pas mouveté. Est-ce que ça s'est passé comme ça ?
Je vais vous expliquer, c'est précisément la fable juridique que nous racontent les ONG avec quand même la complaisance de la commission, c'est-à-dire de la bulle bruxelloise. Les interceptions maritimes sont légales, elles sont même prévues par le règlement de l'Union européenne applicable aux opérations maritimes.
Mais là, c'est repoussé.
Non, une interception, alors je précise, l'interception au sens juridique et opérationnel, elle se décompose en deux options possibles. C'est-à-dire quand vous êtes en train de faire une interception, soit vous appréhendez physiquement seulement le bateau et les personnes qui se trouvent à son bord,
oui,
parce que par exemple vous suspectez un trafic de drogue et vous voulez saisir la drogue. Donc c'est une appréhension physique, et dans ce cas-là, vous amenez le bateau et les personnes qui sont à son bord dans votre propre pays, donc dans le cas de figure, ça veut dire en Grèce. Mais il existe une autre possibilité juridique et opérationnelle, qui est simplement de notifier à cette embarcation qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans les eaux territoriales ou qu'elle n'a pas le droit de s'y maintenir parce qu'elle est entrée illégalement. Et ça, c'est quand on est dans la suspicion que ce bateau est utilisé à des fins de trafic illicite. Le trafic d'êtres humains est
illicite. Vous l'avez fait, ça, ou pas? Enfin, ça, vous êtes d'accord avec cette option-là? Vous êtes d'accord avec cette pratique?
Cette option est conforme au droit européen.
Et je ne vous demande pas juste si elle est conforme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense qu'elle est efficace et qu'elle est tout à fait adaptée.
Vous pensez donc qu'il faut repousser ces bateaux?
Il faut leur notifier une interdiction d'entrée lorsque les conditions sont réunies et donc la suspicion de trafic illicite.
Mais les repousser où?
Dans la zone géographique, que vous indiquiez, c'était les eaux turques, puisque là c'est extrêmement proche. La Méditerranée centrale est très différente parce que là, la distance entre les côtes libyennes, par exemple, et l'Italie sont de l'ordre de 200-300 kilomètres.
Et Jordan Bardella en fait même un argument, puisque, je le cite, il était vendredi dernier à Montbéliard, il a parlé de vous en disant « Le seul directeur d'agence qui a lutté contre l'immigration clandestine en tentant de renvoyer des bateaux a fait le choix de me rejoindre. » Vous avez donc tenté de renvoyer des bateaux.
Mais là, encore une fois, les bateaux... Il y a, lorsque des bateaux sont en difficulté, donc risque de noyade, il faut naturellement sauver les personnes qui sont à leur bord. Mais le droit international, le droit maritime, dit qu'on doit les raccompagner au port sûr le plus proche.
Et
le port sûr le plus proche, ça peut être en Afrique du Nord, lorsque, en fait, ce sont des bateaux qui sont juste en train de partir. Donc la vraie question, et c'est ça, et c'est là la fable que certaines ONG immigrationnistes et la Commission essaient de nous raconter, et c'est ce contre quoi je me suis insurgé, et c'est ce contre quoi s'insurgent beaucoup d'États, parce que les États ont la responsabilité de leurs frontières et veulent faire respecter les règles, c'est que dans ce cas-là, les personnes qui ne sont pas autorisées à entrer dans l'Union européenne devraient être débarquées, par exemple géographiquement là sur la côte nord-africaine. Et c'est là que je refais le lien avec le pacte asile-migration. Le rôle de l'Union européenne pourrait être dans ces pays d'Afrique du Nord, je ne vais pas en citer l'un ou l'autre particulièrement, mais on va dire que dans ces endroits-là, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'installe pas des lieux de réception des migrants dignes au lieu de les envoyer au Rwanda? Bon, l'exemple britannique, c'est qu'on les envoie au Rwanda. Moi, je vous dis plutôt quelque chose d'assez simple. Ils ont été interceptés en Méditerranée, ils ont été sauvés parce que manifestement...
Sauvés toujours?
Bah oui, parce
que... Est-ce que parfois, Fabrice Leggeri, lorsque vous dirigiez Frontex, vous vous êtes dit, il y a un risque que certains périssent en mer?
À chaque fois qu'il y a eu un risque, et que j'ai été informé qu'il y avait un risque, j'ai pris moi-même mon téléphone pour faire pression sur les garde-côtes nationaux de certains États européens qui étaient un petit peu réticents.
Vous leur avez demandé d'aller sauver ces migrants?
Je leur ai dit, et ils ne pouvaient pas me suspecter d'être complaisant avec les ONG. Ils savaient que ma position était de faire un contrôle des frontières efficace tout en respectant le
vous
droit
avez,
international
vous
et l'humanité.
Vous sauvez des migrants?
J'ai été, pendant toute la période où j'étais directeur de Frontex, il y a eu à peu près 300 000 personnes qui ont été sauvées dans le cadre des opérations de Frontex, donc entre 2015 et 2022, on va dire à peu près 300 000 personnes.
Vous n'avez jamais passé sous silence une alerte dont vous auriez eu connaissance?
Des alertes avec des gens qui se noient? Non. Moi, je n'ai pas eu connaissance de situations où des gens étaient en train de se noyer ou d'être en situation de péril. Et lorsque il est même arrivé que des personnes impliquées dans les opérations me fassent remonter qu'il y avait des délais pour autoriser Frontex à faire le secours, je suis intervenu afin de débloquer le verrou au niveau approprié lorsqu'il y avait un verrou à débloquer. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie question par rapport aux politiques migratoires, il n'y a pas de doute sur le fait que nous devons, bien entendu, empêcher des morts et empêcher des pertes de vie humaine. Et la meilleure façon de l'empêcher, c'est autant que faire se peut d'empêcher ces personnes de prendre la mer, empêcher ces personnes de se mettre en route, de périr dans le Sahara pour les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc en fait, ce qu'il faut comme politique migratoire efficace, et c'est cela que j'irai porter si je suis élu avec le Rassemblement National au Parlement européen, c'est qu'il faut agir le plus en amont possible.
Est-ce que vous demanderez à nouveau une augmentation ? Est-ce que si Frontex, alors que vous êtes, vous, député européen, demande une augmentation de ses moyens, vous voterez pour ?
Ça dépend de l'usage qui en sera fait.
Je rappelle qu'à l'époque où vous étiez vous-même président de Frontex et où vous demandiez des moyens supplémentaires pour faire votre travail, le Rassemblement National, les élus du Rassemblement National, Jordan Bardella, là lui-même ne les a pas votés, ne vous a pas octroyé ces crédits.
Alors, quand on regarde les votes de manière un peu plus détaillée, ce qui a été écarté par le Rassemblement National dans ses votes au Parlement européen, c'était l'augmentation des moyens pour faire uniquement des moniteurs des droits fondamentaux avec l'utilisation de grades très élevés qui, en fait, étaient manquants au sein du corps européen. Donc moi, ce contre quoi j'ai combattu, c'est une tendance de la Commission européenne a organisé en fait la submersion migratoire en donnant tout le pouvoir aux ONG immigrationnistes dans Frontex par des militants qui s'appellent des moniteurs de droits fondamentaux, mais en réalité ce sont des militants d'ONG, au détriment des forces, je dirais, de personnel garde-côte ou garde-frontière en uniforme et avec une arme pour faire un vrai travail de police.
Merci Fabrice Leggeri d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle donc que oui, vous êtes l'ancien président de Frontex, mais que vous êtes désormais candidat du RN sur la liste des européennes. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous, Alain Marchal. Quel est le programme ?
Eh bien, nous allons revenir effectivement sur la menace terroriste, puisque nous sommes passés en urgence attentat. Et c'est vrai qu'on a en tête la cérémonie des Jeux Olympiques, les rassemblements populaires qu'il y aura dans la capitale, notamment, et dans les autres villes qui accueillent les épreuves. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce qu'il faut rapidement passer un plan B, un plan C ? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour Les Grandes Gueules.